Et la main verte, c'est avec vous. Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour, bonjour à tous.
Les pommes au programme ce matin. Depuis quand les hommes produisent-ils des pommes ?
Eh oui, alors il est avéré que les Égyptiens, je parle bien sûr de ceux de l'Égypte antique, cultivaient le pommier il y a 3000 ans, et il en existait alors 6 variétés dégustées, par exemple, par le plus célèbre des pharaons, Ramsès II. Bah oui. Alors cet homme appréciait tant le fruit qu'il fit planter des pommiers dans son domaine de Père Ramsès, actuelle ville de Kantir. Quelques centaines d'années plus tard, la culture du pommier s'intensifie et les Égyptiens deviennent alors maîtres dans l'art de greffer l'arbre fruitier.
Alors les Égyptiens et les Grecs aussi mangeaient des pommes.
Eh bien oui, ils ne se contentent d'ailleurs pas d'en cueillir dans la nature, ils plantent quantité de vergers. La suite est logique, les Romains en cultivent à leur tour et il est alors possible d'en consommer 26 variétés nouvelles.
Vous parlez bien de la pomme comme fruit du pommier. Hein.
Eh oui, votre remarque est pertinente. Eh bien oui, parce qu'en latin, Patricia Martin le sait, pommum signifie fruit en général. Ce qui explique pourquoi, au 1er siècle de notre ère, la pêche est appelée pomme de Perse, la grenade pomme à grain et l'abricot pomme précoce. Alors quand j'évoque 26 variétés nouvelles, je parle bien de la pomme, celle que nous connaissons. Les Romains pouvaient déguster des fruits qui se nomment Cestius, Matius, Scodius, Malius, Orbiculé, Tyrienne. Certaines variétés portent parfois le nom de leur inventeur, comme Septiane, ou sont baptisées en fonction de leurs caractéristiques. Les mélimènes, reconnaissables à leur goût de miel. Les jumelles, toujours fixées sur l'arbre deux par deux. Alors, j'adore les chiffonnées, qui vieillissent mal. Et enfin, les spadonia, en fait c'est le nom, que ça signifie les eunuques, car sans pépins, c'est quand même drôle.
Et celle-ci, c'est quoi celle que j'ai en main, puisqu'il se trouve que j'avais une pomme dans mon sac.
Elle est rouge.
C'est quoi ?
C'est une golden rouge. C'est très rare.
C'est une golden rouge. On va la noter, celle-là. Chez les Romains, disiez-vous, il existait aussi déjà une variété encore très connue aujourd'hui.
Eh bien, la pomme. Petite pomme, justement, que vous avez dans les mains, Patricia, la pomme d'Api, qui tient son nom d'Appia, une famille de la noblesse romaine. Cette pomme est toujours célèbre, et c'est peut-être même la plus célèbre de toutes les pommes, grâce à une chanson que nous ne connaissons pas si bien. Vous, Patricia, si, parce que vous l'avez très...
Ah non, vous n'allez pas me faire chanter, je chante une casserole.
Bien sûr que si. Vous l'avez très bien chanté, parce qu'on prononce mal le deuxième coup. Nous non, vous écoutons.
Chantez, vous chantez avec moi.
Après, allez-y.
Pomme de rainette et pomme d'api, d'api, d'api rouge.
Pomme de rainette et pomme d'api, d'api, d'api gris. Bravo.
Et c'est bien d'api et non pas tapis. Et on entend souvent le T comme dental à la place du D. Et la pomme qui est donc un fruit régressif, j'ai bien compris, Alain Baraton.
Oui, tout à fait.
on dit manger une pomme par jour, c'est une santé assurée. Parce que l'acide malique, c'est très très bon.
Tout à fait. Une pomme par jour éloigne le médecin et Churchill de rajouter, surtout si l'on s'est bien visé.
Vos conseils à présent, Alain Baraton, aux auditrices, auditeurs de France Inter. Yolaine voudrait vous parler de son rosier et de son citronnier qui ont été attaqués par la cochenille. Alors, le citronnier a de la fumagine. J'ai utilisé votre recette, dit Yolaine, c'est-à-dire savon noir, alcool 90 degrés et huile de cuisine, mais après deux vaporisations, les feuilles du rosier se sont détachées et quelques feuilles du citronnier se sont recroquevillé.
Bon conseil.
C'est pas terrible, je vais répondre,
Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'ai-je fait de mal, demande-t-elle.
Ben, effectivement, quand je parle de l'huile, quand je parle du savon noir, et quand je parle d'alcool à diluer dans un litre d'eau, si effectivement notre ami n'a pas dilué, je comprends les conséquences.
Mais si vous ne lui avez pas dit de diluer.
Mais bien sûr que si.
Diluons.
Je pense que oui. Je pense que mes conseils sont enregistrés, qu'il est possible de vérifier. Non, c'est à diluer. Donc, on résume. 3 cuillères d'huile, 3 cuillères de savon noir, 3 cuillères d'alcool à brûler ou d'alcool de médical. On le met dans 1 litre d'eau, on secoue l'ensemble et on pulvérise dessous et dessus les feuilles à 45 minutes d'intervalle. On renouvelle le traitement régulièrement et effectivement, on arrivera ainsi à se débarrasser des cochenilles qui sont responsables de quantité de dégâts, mais pas de la fumagine. La fumagine, c'est quand vous avez cette poussière noire qui se colle sur les feuilles, ça c'est dû à la piqûre d'un insecte ou plutôt aux champignons qui se déposent sur les excréments produits par le moustique qui se nourrit de la sève. Ça, c'est un autre problème.
Gilles a planté au printemps dernier des rosiers pour bordure, mais ils n'ont pas arrêté de fleurir. Même en janvier, je voudrais tailler pour garder un port arrondi, dit Gilles, et pour que la plante ne se dégarnisse pas par le bas. Ai-je raison ?
Oui, vous avez actuellement un petit dérèglement climatique. Il est évident que les rosiers doivent être au moins réduits dans leur course folle. Donc même s'ils continuent de fleurir actuellement, ce qui est une anomalie, il faut tailler l'extrémité des branches pour éviter que la plante ne se dégarnisse. Ce qui compte, c'est la floraison printanière. Les quelques fleurs qui apparaissent maintenant, ma foi, sont véritablement secondaires.
Léon, j'ai un verger, écrit-il, mais les arbres sont régulièrement visités par les fourmis qui semblent avoir fait un élevage de pucerons. J'ai remarqué parfois que les troncs étaient peints en blanc pour lutter contre les attaques d'insectes. Selon vous, demande Léon, cette pratique est-elle efficace?
Vous savez, quand les anciens pratiquaient ainsi pendant des siècles, ce n'est pas sans raison. On chelait, on continue de le faire, le tronc des arbres fruitiers pour éviter que quantité d'insectes ne viennent pondre dans l'écorce. Donc oui, c'est une mesure qui est écologique, une mesure qui est préventive, elle n'est pas curative, mais qui a une grande efficacité. Et ensuite, le problème des pucerons, c'est autre chose, ils viennent souvent par les airs, ils sont attirés par les fourmis qui vont un petit peu se comporter avec les pucerons comme nous-mêmes nous le faisons avec les vaches. Les pucerons vont être prêts pour le suc qu'ils produisent, pour leur lait, par les fourmis. D'accord. Là où il y a des pucerons, il y a souvent des fourmis, et là où il y a les fourmis, il y a donc des pucerons. Éloignez les fourmis, mettez simplement quelques petites bandes autocollantes à la base de l'arbre pour leur éviter de grimper le long du tronc, et le problème sera au moins en grande partie réglé.
Vous avez compris quelque chose?
J'ai bien compris, moi, oui. Michel, je ne ferai pas un résumé tout de suite, mais j'ai compris. Une des branches maîtresses de mon cerisier âgé de 17 ans a l'écorce fendue et des champignons s'y développent. Faut-il scier la branche au ras du tronc, rapidement?
Oui, et rapidement, oui, et sans attendre, parce que la décomposition du bois risque de gagner tout le végétal.
Très bien, on va terminer avec un dernier conseil
un
pour
bouquin,
ce dimanche.
Absolument, c'est un peu particulier. Mousse et lichen, c'est 290 espèces, paraît-il, faciles à identifier. C'est quand même réservé à des pros. C'est publié donc par Delachaux-Niesclé, c'est écrit par Wirth, Dull et Caspary.
Un bouquin. Vous pouvez me la faire, celle-là. Par qui?
Par Wirth, Dull et Caspary, ce sont des Allemands, des professionnels. Mousse et lichen, au guide Delachaux. Un bouquin étonnant.
Et vite, un thé au miel.
On va vous servir un petit thé au miel pour ce matin. Merci beaucoup Alain Baraton et à samedi prochain.
Peut-être.